Le oui a besoin du débat pour gagner.
Mais le seul truc qui t'intéresse, c'est toi, toi et toi, tes études, ta carrière, ton poste ministère, la con.
Nous sommes une démocratie, c'est le peuple qui l'a décidé.
Attendez, c'est pas avec ce genre de phrases bateau et consensuelles qu'on va faire évoluer le débat. Camille, c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein.
Be you, be proud of you, because you can be...
Place publique, l'émission politique de Radio Campus Paris.
Do what we want.
Garantie sans candidat, mais avec des invités qui ont des idées.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors on va tous vivre ensemble, puisque c'est ça qu'ils veulent. Allez, donnez les temps.
Mes chers collègues, la séance est suspendue.
Campusiens, campusiennes, bienvenue dans Place Publique, l'émission politique présidentielle de Radio Campus Paris. Comme on l'a dit dans le générique, 100% sans candidat ni porte-parole, mais avec des invités qui ont des idées. Ce soir, nous n'avons qu'une toute petite heure pour aborder un sujet qui pourra paraître bien aride à vos oreilles d'étudiants, puisque ce mois-ci, nous avons choisi de parler d'économie avec trois invités de qualité que je vous présenterai tout de suite. Le discours économique. Enfin, un discours économique bien particulier est omniprésent dans la bouche de tous les politiciens classique et de plein d'experts en costard sur les plateaux télé et sur d'autres radios concurrentes. Hein, ces mots qu'on entend sans cesse et qu'on n'écoute plus. La dette, le déficit, la croissance, le PIB, la réduction de charges, le marché du travail, il faut le flexibiliser, la courbe du chômage, etc. Comme si c'était une science exacte, alors que l'argent, comme toutes les institutions économiques, n'ont rien de naturel. Pourtant, il y a bien d'autres manières de penser et de pratiquer l'économie. Et pour en débattre ce soir, nous recevons trois voix originales qui s'intéressent à l'économie sociale et solidaire, l'économie collaborative, l'économie du partage, des chercheurs et des praticiens. David Massé, vous êtes enseignant, chercheur en sciences de gestion, maître de conférences à Télécom Paris Tech. Vous avez longtemps travaillé donc comme chercheur au Strategic Innovation Lab, le département de recherche d'Ubisoft. Vos recherches portent sur l'organisation des industries de la création, l'impact du numérique sur les processus d'innovation, les différents business models et logiques d'action de l'économie collaborative. Bonsoir.
Bonsoir.
Alexandre Vogue. Vous êtes fondateur et PDG d'une start-up, ilou.com.
C'est ça.
C'est donc une marketplace de location pour particuliers et professionnels de la location, où on peut louer des objets à d'autres personnes. Si j'ai bien compris, vous avez investi et conseillé de nombreuses autres start-up, telles que LoveTrip, un outil de rencontre pour les célibataires dans les transports, et FenStat, un outil d'analyse statistique pour l'escrime. Je le mentionne car vous êtes également membre de l'équipe nationale d'escrime israélienne. Dans quelle arme? Bonsoir.
Bonsoir, donc je fais du sabre, donc c'est une des trois armes, il y a le sabre, le fleuret et l'épée, et donc moi je pratique le sabre qui est l'arme, on va dire, la plus rapide.
Tout à fait, vous n'avez pas honte de toucher avec la tranche de la lame. Je suis fleurettiste. Justine Ballon, vous êtes une jeune chercheuse en économie mais aussi une praticienne puisque vous travaillez à Copanam. Copanam, c'est une coopérative ouvrière et œuvrière issue du mouvement des coopératives d'activité et d'emploi, en gros qui accompagne des travailleurs et des travailleuses pour lancer leur activité, si j'ai bien compris. Ça offre un cadre collectif, des droits sociaux aux salariés. Vos recherches portent sur le management, la coopération et le genre dans les coopératives, les communs, ainsi que l'ubérisation. Bonsoir.
Bonsoir.
Et pour m'accompagner, pour interviewer ces invités, animer ce débat, Nino, bonsoir.
Bonsoir.
Et également Valentin qui se balade dans le studio. Bonsoir Valentin qui nous rejoindra en deuxième partie d'émission. Et bien sûr l'indispensable Paul-Henri à la réalisation de cette émission, ainsi que Elsa, notre rédactrice en chef qui m'a aidé à la préparer. Place publique numéro 2, c'est parti.
J'ai un cœur comme le vôtre qui bat à sa cadence et qui est le mien.
Place publique, un vendredi par mois sur Radio Campus Paris.
Vous n'avez pas le monopole du cœur.
Chers invités, bonsoir, quel plaisir de vous retrouver dans cette seulement deuxième édition de Place Publique. Donc c'est un magazine politique présidentiel quelque peu particulier, puisque chaque mois nous prenons une thématique, alors pas de bol, vous êtes tombés sur l'économie, mais toujours avec cette même approche. On va débattre d'un sujet comme on rêverait de le voir débattu à l'élection présidentielle. D'où cette question, je commence à aller par David Massé. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du débat économique tel qu'il est porté actuellement par nos politiciens et politiciennes?
Alors, si on en juge par ce
qu'on en parle aujourd'hui dans les médias, tout du moins, on ne voit pas énormément émerger la place de l'économie collaborative et la place de l'économie sociale et solidaire. Après, évidemment, je ne suis pas un spécialiste sur cette question-là, mais...
Bien sûr, mais vous êtes quand même...
Un citoyen comme les autres.
Un citoyen qui peut avoir son opinion aussi sur les débats économiques. Et voilà, vous êtes intéressé par ça. Alexandre Vogue et Justine Ballon.
Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a eu un quinquennat, on va dire, assez difficile économiquement pour les entreprises, pour les start-up. D'un point de vue financement, il y a du financement en France, mais beaucoup partent à l'international, à l'étranger. Donc c'est compliqué et on voit réapparaître finalement des programmes, des candidats qui sont beaucoup plus libérales. Donc voilà, on voit une évolution parmi les candidats.
Vous parlez sans doute du candidat qui est récemment arrivé en tête du premier tour de la primaire de la droite et du centre.
Alors, lui, mais aussi le second et le troisième. Donc,
vous trouvez qu'il y a une évolution, donc, si je résume, du discours politique vers plus de libéralisme en général?
Je pense que même sur les candidats qui sont dans le camp entre guillemets opposé, quand on voit Emmanuel Macron, Manuel Valls, c'est quand même ça reste finalement des programmes qui restent quand même finalement même libéral, même à gauche. Donc j'ai l'impression que c'est la mouvance parmi les politiciens.
Et vous, Justine Ballon, vous trouvez aussi qu'il y a moins d'alternatives qui sont portées dans les discours politiques aujourd'hui sur l'économie?
Je sais pas, mais il y a surtout une pression énorme qui est faite sur les travailleurs et les travailleuses, comme on l'a vu avec cette année la loi Travail, où finalement on essayait de réduire ce que pouvaient coûter ces personnes qui travaillent dans les entreprises, alors qu'en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas se poser la question de la répartition des richesses, la répartition entre le capital et le travail, où est-ce que va la... Les travailleurs produisent de la richesse avec leur travail, mais en fait, cette richesse, elle est accaparée par certaines personnes. Je pense que c'est cette question-là, à la fois de la répartition des richesses et de la pression sur le travail, qui est intéressante. Je sais qu'on ne va pas parler du travail aujourd'hui seulement.
On peut aborder le travail aussi quand même. Non, vous inquiétez pas, vous avez le droit de parler de ce que vous voulez. Vous pouvez faire comme les politiciens, répondre totalement à côté des questions des journalistes pour pouvoir imposer vos thèmes. Pas de souci. Alors, peut-être Nino, c'est le moment où tu rentres en scène, je crois.
Allez,
pour cuisiner nos invités un petit peu.
Bah, du coup, ouais, c'est ce que vous venez de dire, Justine Ballon, c'est quand même la question du rapport au travail, c'est une des questions que pose l'économie collaborative, l'économie du partage, l'économie sociale et solidaire, l'ESS, comme on dit. On va peut-être se tourner vers notre chercheur, David Massé. Est-ce que vous pourriez commencer par définir ce que c'est pour nous, un peu simplement, l'économie collaborative d'une part, l'économie du partage et l'économie sociale et solidaire, pour distinguer les trois?
C'est le moment prof, attention.
Alors, je ne vais pas m'en priver. Dans les trois concepts que vous avez évoqués, déjà, il y en a deux qui sont relativement similaires, l'économie du partage et l'économie collaborative. Alors, l'économie du partage, c'est la traduction littérale de ce qu'on appelle la sharing economy en anglais. Et il se trouve qu'en France, a été propulsée depuis quelques années par un collectif qui s'appelle WeShare, l'économie collaborative. Donc, on parle plus facilement en France d'économie collaborative, mais les deux concepts recouvrent une réalité assez commune. L'économie sociale et solidaire, à mon sens, est un petit peu différent, bien qu'on va voir par la suite sûrement qu'il y a des recoupements, mais c'est des concepts qui, à un moment donné, vont se recouper, mais ils ne se recouvrent pas complètement. Donc l'économie sociale et solidaire... L'idée, c'est on parle de collaboratives, de coopératives, d'entreprises, de mutuelles, d'associations. Donc la forme juridique est relativement large. Mais l'idée, c'est qu'il y a un principe de solidarité et d'utilité sociale. Et d'ailleurs, le concept, pour ma part, en tous les cas, est relativement moins mouvant que celui d'économie collaborative, étant donné qu'on a des agréments aujourd'hui pour attribuer est-ce qu'une entreprise fait partie de l'économie sociale et solidaire. Et d'ailleurs, l'entreprise doit avoir un certain nombre de critères pour adhérer, comme le but de l'entreprise doit être à utilité sociale, il doit avoir une gouvernance démocratique, le dirigeant de l'entreprise ne peut pas être payé des millions, etc. etc.
Il y a des plafonds de rémunération pour les dirigeants dans l'économie sociale et solidaire?
Pour être agrémenté, vous avez des plafonds.
Après, est-ce qu'il y a des critères, enfin, parce que là on parle des critères, mais ça recouvre quand même tout un tas de réalités différentes. L'économie sociale et solidaire, c'est pas non plus des associations avec trois gauchistes qui essaient de changer l'économie. Ça peut être des acteurs, des énormes mutuelles.
Le groupe SOS.
Oui, enfin voilà, enfin, il y a quand même toute une diversité de structures dans l'économie sociale et solidaire.
Il y a une grande diversité de structures, mais... Par rapport au concept d'économie collaborative, le concept fait beaucoup moins débat. Mm-hmm. Si on parle, par exemple, d'économie collaborative aujourd'hui, alors l'économie collaborative, la manière tout du moins que je la définis, c'est un tas d'entreprises qui propulsent finalement une nouvelle forme d'organisation du travail, où vous avez des plateformes en ligne, premièrement, et des lieux partagés, deuxièmement, qui facilitent des initiatives décentralisées et des relations de pair à pair. Pair à pair, c'est-à-dire de particuliers entre particuliers.
De peer-to-peer, on pourrait dire.
Exactement. Donc, d'un côté, vous avez des plateformes en ligne comme Uber, Airbnb, et puis d'un autre côté, vous avez des lieux partagés qui sont des hackerspaces, des Fab Labs, des Repair Café, qui, disons, dans l'acceptation aujourd'hui que l'on a du terme d'économie collaborative, on a ces deux réalités-là qui recouvrent tout ça. Et puis, on a aussi des logiques dans toutes ces initiatives qui sont très marchandes, puis des logiques non marchandes. Alors, marchandes, il suffit de regarder Uber et Airbnb qui en prompent à discuter.
Ce sont pas exactement des organisations philanthropiques.
Exactement. Et puis, vous avez à côté des Repair Café qui, finalement, ne sont pas là pour faire du profit avec une mission sociétale qui est finalement la réduction des déchets et la réparation des objets, voire même lutter contre l'obsolescence programmée des produits. Et puis, en fait, juste pour encore mettre un peu plus de flou derrière le concept d'économie collaborative.
Allons-y, perdons nos auditeurs.
Comme s'il ne manquait pas de flou. Vous avez un tas de secteurs très différents. Donc, on parle de mobilité collaborative, on parle d'éducation collaborative avec toute la vague des MOOC, on parle de financement collaboratif, on parle d'alimentation collaborative, etc. etc. Donc, en fait, on recouvre tout un tas de secteurs et à la fois, on retrouve aussi des pratiques qui sont très différentes. Vous avez des entreprises qui font des associations, etc., qui font de la location, vous en avez qui font du don, vous en avez qui font du troc, vous en avez qui font même de la vente et de la revente. Donc, en gros...
Tout un tas de mécanismes économiques très différents, en fait, de façon d'échanger les biens et les services, quand même.
Exactement. Et ce qui fait que vous avez un concept aujourd'hui qui fait souvent débat dans les médias. Et on voit, alors j'aime beaucoup cette petite citation qui vient d'une journaliste des Inroc, qui définissait en fait l'économie collaborative comme un grand fourre-tout qui voit se côtoyer des jeunes pousses du web aux dents longues, des entreprises qui valent des millions en bourse et des néo-babas aux ambitions autant politiques que sociales.
Eh bien, c'est une définition admirablement synthétique. Peut-être une réaction de nos deux autres invités. Est-ce que la chercheuse praticienne ou le praticien de l'économie veut réagir? Est-ce que vous êtes en accord avec cette petite présentation conceptuelle de David Massé, Justine Ballon?
Moi, je voulais rappeler un peu l'histoire de l'économie sociale. L'économie sociale, elle s'est développée en même temps que le capitalisme au XIXe siècle. Ce sont des ouvriers principalement qui avaient des conditions de travail assez horribles, il faut le dire, qui ont décidé de se mettre ensemble sous différentes formes, donc les associations, les mutuelles et les coopératives, pour essayer de répondre d'une meilleure manière à leurs besoins. Donc ça pouvait être, par exemple, créer une caisse de solidarité en cas de maladie, donc ça c'est le début des mutuelles. Ça pouvait être des associations de travailleurs qui sont devenues les sociétés coopératives ouvrières de production. L'idée, c'était que les travailleurs soient propriétaires de leurs moyens de production pour vraiment décider comment ils allaient travailler, quel rythme, avec quels outils et aussi comment ils allaient répartir les richesses. Et ça pouvait être aussi les ouvriers qui n'avaient pas beaucoup de salaire et qui se disaient pour réduire les coûts de nos achats... Je ne sais pas, ça peut être la farine, ça pouvait être le pain. Eh bien, on va se mettre ensemble dans une coopérative de consommation pour acheter, en gros, la farine, donc en grosse quantité, et réduire ainsi les prix pour éviter d'avoir à payer les distributeurs entre deux. Donc je pense que c'est important de rappeler ça.
Donc c'est aussi vieux que le capitalisme financier tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est ça que vous êtes en train de dire.
Mais justement, ça s'est développé en opposition à ces formes de développement économique qui étaient complètement inégalitaires. Et il faut savoir que l'économie sociale s'est développée aussi en lien avec le syndicalisme, etc. Donc c'était en opposition au salariat. Parce que les gens ne voulaient pas être obligés de venir travailler tous les jours, etc. C'est devenu une autre forme de lutte, puisqu'après, ils ont soutenu le salariat pour avoir un salaire mensuel,
régulier,
par exemple.
Mensuel.
Exactement, ouais.
Un
la protection
temps de travail
sociale.
Bien défini.
Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour inviter les gens à aller voir le film La Sociale, qui est sur l'histoire de la sécurité sociale, qui apprend beaucoup de choses. Bref, je pense que c'était important de rappeler ça. L'économie collaborative, elle est un peu plus récente. Elle est liée notamment à tous les outils informatiques. Et moi, je voudrais poser la question de, justement, quelle est la répartition des richesses et notamment, quel est le modèle économique de ces structures. Voilà.
Et je vais laisser la parole. Cette question du modèle économique et des structures, on va y revenir en deuxième partie. Avant de s'écouter une première musique... Je voudrais quand même une petite réaction de notre troisième invité qui n'a pas beaucoup intervenu pour l'instant.
Oui, Alexandre, j'ai écouté avec intérêt. Effectivement, je pense que le partage a toujours existé. Ce qui est nouveau, c'est vraiment Internet qui permet justement de partager. Je pense à un concept comme Ilou. Ilou, je l'ai fondé donc, dans la location de tout type d'objets. Je l'ai fondé en 2009. En 2009, on ne parlait même pas d'économie collaborative. On parlait, donc les professeurs de mon école HEC, je me rappelle, ils parlaient un petit peu d'économie de fonctionnalité. Donc encore un terme qui veut dire la même chose. Et finalement, moi, quand j'ai fondé ma start-up, tout simplement, j'ai eu un besoin avec un ami. On a eu besoin d'une perceuse, un déménagement. On l'a trouvé chez un voisin. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait finalement mettre en relation plus facilement. On n'a pas eu l'ambition de se dire... on veut créer absolument quelque chose dans l'économie collaborative, dans le partage, etc. C'est vraiment venu d'un besoin, d'un hasard. Et on s'est dit, voilà, s'il y a un besoin, il y en a d'autres qui doivent avoir ce besoin. Donc, pourquoi pas créer un concept autour de ça. Donc, finalement, voilà. Et Internet, comme on était passionnés, nous a permis ça. Parce que des concepts comme Ilou, c'était très, très innovant en 2009. Il y avait très peu de startups dans l'économie collaborative. Ça a vraiment explosé en 2012. Mais néanmoins, je ne peux même pas dire que je suis le premier à avoir pensé à faire ça parce que dès les années 2000 et la bulle Internet, il y avait une startup, je ne sais plus exactement son nom, mais en gros, elle avait créé un concept voilà, dans la location, dans le partage, dans les années 2000. Et finalement, bon, ça n'a pas marché parce que justement, il n'y avait pas les outils nécessaires. C'est-à-dire qu'on avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les années 2000, c'était le début des forfaits illimités sur Internet. Donc, pour charger une page, ça mettait 5 minutes. C'était le modem 56K.
Avec les parents qui nous engueulent voilà, parce qu'ils ne peuvent pas téléphoner quand on est sur Internet en même temps.
On dépassait le forfait. Enfin, et finalement, il n'y avait pas le même accès à Internet. Aujourd'hui, c'est évident, tout le monde a l'accès en France, mais ce n'était pas le cas. Donc, finalement, voilà, c'est vraiment les outils techniques.
Il reste encore quelques pourcentages de la population française qui sont victimes de la fracture numérique. Quand même, ou alors qui ont une connexion toute pourrie, je tiens à le rappeler.
Ouais, ouais, ok. Donc, du coup, voilà, c'était vraiment les outils aujourd'hui technologiques nous permettent de faciliter le partage. Et je pense que c'est notamment grâce à ça qu'est né l'essor de l'économie collaborative.
Très bien. Donc, l'économie collaborative est intimement liée au numérique et ça n'a rien à voir. Mais tout de suite, c'est l'heure de la première pause musicale. On revient dans Place Publique dans 3 minutes.
Given moment in the middle of a city, there's a million epiphanies occurring in the blurring of the world beyond the curtain and the world within the person. There's a quiver in the litter in that alleyway is singing. People meet by chance, fall in love, drift apart again. Underage drinkers walk the park and watch the dark descend. The workers watch the clocks, fiddle with their Parker pens. While the grandmothers haggle with the market men. Here, where the kids play and laugh until they fall apart. It's kiss chasing, dancing till it's mistakes and darkened rooms. Too fast, too soon, too slow, too long. Move around all day, but we can't move on.
Is anybody else awake? Will it ever be day again? Is anybody else awake? Will it ever be day again?
flowing plant pots, fence posts, decorated door numbers, motor black beneath a top, beaten up Pinto. Goalposts painted on that green garage door, there's a rainbow on that wheelie bend, there's stickers in that window. Smart flats, rough flats, can't get enough cat flats, you know, 17 cat flaps, rich flats, broke flats, new flats, old flats, luxury bespoke flats, and this has got to be a joke flats, pensioners, toddlers, immigrants and Englishmen, families of six kids, single businesswoman, look, everybody's here trying to make a scrape a living, a fox freezes on the alley wall and stands still sniffing, bare branches sway in the front garden, the lion mouth door knocker flaps in the breeze, street lights glint on the beware of the dog signs, the beer cans and crisp packets dance with the dead leaves, it's 4:18 a.m. at this very moment on this very street, seven different people in seven different flats are wide awake, they can't sleep, now of all these people in all these houses only these seven are awake, and they shiver in the middle of the night, counting their sheepish mistakes.
Is anybody else awake? Will it ever be day again? Is anybody else awake? Will it ever be day again?
We start on the corner with our backs against the wall, next to the old phone box where the tramp leaves his bedding. The road runs ahead of you, houses and flats either side, walk down it. Go past the yard with the caravans there behind the hedges.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, on vient de s'écouter Lion Move Door Knocker de Kate Tempest.
Win the yes, need the no to win.
Place publique, l'émission politique sans langue de bois de Radio Campus Paris.
Again the no.
Vous êtes toujours dans Place publique sur l'économie sociale et solidaire, l'économie collaborative, l'économie du partage, l'économie dont on n'entend pas parler sur BFM Business. Et ben nous, sur Campus, ce soir, on en parle. Et c'est la deuxième partie de cette interview avec David Massé, Justine Ballon et Alexandre Vogue. Nino, c'est à toi.
Alors Alexandre, vous nous avez expliqué juste avant la pause musicale le principe de votre site Ilou, donc, qui permet de louer entre particuliers toutes sortes d'objets. Est-ce que vous reconnaissez dans la définition qu'a donnée tout à l'heure David Massé de l'économie sociale et solidaire, est-ce que vous aussi dans votre entreprise les valeurs de répartition démocratique du pouvoir, une éthique dans la répartition des revenus, c'est quelque chose auquel vous adhérez ou vous n'êtes pas posé cette question-là?
Vous avez juste rien à foutre.
Non, en fait, je pense que... Alors, on peut être une entreprise de l'économie collaborative sans pour autant être une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Voilà, nous, en l'occurrence, je pense qu'on l'est. Voilà, on adhère à pas mal de critères. Parce que voilà, c'est aussi, je pense, dû au fait qu'on est dans un esprit start-up. Donc, déjà...
Est-ce que vous avez le label par exemple, l'économie sociale et solidaire ?
Non, on l'a pas. Enfin, il n'y a pas forcément d'intérêt pour nous à monter un dossier pour l'avoir. Enfin, voilà, il n'y a pas. Donc, on n'a pas pris le temps de le faire. Mais voilà, je veux dire, on est dans un esprit start-up, donc forcément, tout le monde, c'est très. Enfin, les idées, les débats est présent tout le temps. Tout le monde participe chaque semaine, on va dire vraiment aux évolutions de demain. Les salaires, voilà, on paye pas, on n'a pas les capacités de payer des salaires mirobolants. Moi, en tant que président, je ne suis pas celui qui a le plus gros salaire de la société. Donc voilà, c'est pas forcément une démarche réfléchie, mais en tout cas, c'est ma façon de voir l'entrepreneuriat et l'entreprise qui font que je pense qu'on respecte beaucoup de critères de cette économie sociale et solidaire.
Et toutes les personnes qui travaillent à Ilou sont des salariés.
Oui, alors toutes les personnes sont des salariés. Après voilà, on a démarré nous en 2009, on n'avait pas de moyens, j'ai démarré sur le campus d'HEC à Jouy-en-Josas, on avait des stagiaires et voilà, et donc ça nous a bien servi. Après quand on a pu recruter, on recrute, parce qu'au final d'avoir un salarié, je pense que la réussite d'une entreprise vient des talents de l'entreprise, et donc finalement voilà, moi en tant que président de l'entreprise, je suis juste un chef d'orchestre, et donc forcément plus on arrive à fidéliser les salariés, plus on arrive voilà, c'est aussi dans notre intérêt finalement de les salarier. C'est pas, je veux dire, le fait de gagner un petit peu à court terme, on y perd sur le long terme, quoi.
Et est-ce que vous pensez qu'il y a quand même dans votre entreprise, voilà, même si les gens sont salariés, une espèce d'esprit, un peu comme ce qu'expliquait Justine Ballon, là où elle travaille, du fait que les gens ils viennent pour construire un projet ensemble et pas juste parce qu'ils cherchaient un travail, quoi. C'est aussi, voilà, on vient à Ilou parce qu'on a envie de participer à ça, c'est quand même quelque chose d'assez
oui,
nouveau.
Alors je pense que voilà, le côté de bosser chez Ilou, il y a un côté, voilà, on est dans une start-up, il y a un côté sexy, il y a un côté sympa dans le modèle économique, c'est que finalement la société gagne de l'argent, mais en même temps un locataire va économiser de l'argent en louant, un propriétaire d'un objet va gagner de l'argent aussi, donc finalement tout le monde y gagne, donc c'est un peu tripartite. Donc je pense qu'effectivement le modèle plaît. Après je pense que les gens, voilà, ce qui leur plaît c'est l'innovation, c'est les nouveaux modèles économiques, c'est internet, c'est les start-up. Je pense pas que les gens viennent forcément parce que c'est on est dans l'économie du partage, c'est, on va dire, c'est un plus.
Vous Justine Ballon, vous nous avez expliqué rapidement le principe de Copanam, c'est ça là où vous travaillez. Comment ça se passe concrètement pour essayer de construire le projet? Donc, si j'ai bien compris, c'est un endroit où chacun peut venir avec ce qu'il sait faire. Et voilà, chacun amène un peu son savoir-faire et vous essayez de construire quelque chose ensemble. Et comment ça se passe concrètement qu'est-ce que vous construisez déjà et comment vous faites?
L'idée des coopératives d'activité d'emploi, c'était de répondre à un besoin parce qu'il y avait plein de personnes à qui on avait dit « Vous ne trouvez pas de travail, mais créez une entreprise !» Sauf que créer une entreprise, ce n'est pas une chose facile. Il y en a plein qui se sont cassés le nez, qui se sont retrouvés endettés, qui n'ont pas réussi à trouver un bon modèle économique. Donc les coopératives d'activité d'emploi, elles ont été créées notamment en lien avec le ministère du Travail pour répondre à cette problématique. Donc l'idée, c'est que les gens... Ils arrivent souvent, soit ils sont dégoûtés du travail en grande entreprise parce qu'ils ont dû travailler énormément, burn-out, etc. Soit ils n'arrivent pas à trouver un travail qui leur convient, donc ils se disent « je vais créer mon activité ». Ça peut être très différent, ça peut être quand on est architecte, paysagiste, ça peut être quand on est jardinier, quand on crée des bijoux, quand on est coach, formateur, il y a vraiment plein de métiers différents. On vient avec son savoir-faire et puis on se dit qu'on a besoin encore d'être formé sur certains trucs, le marketing par exemple, la communication, etc. Donc il y a plein d'ateliers de formation qui sont proposés. Il y a aussi une mutualisation de la comptabilité qui n'est pas une chose facile à appréhender quand on commence. Et surtout, il y a plein de temps d'échange avec d'autres entrepreneurs sur ces difficultés. Ou tout simplement, par exemple, quand on est photographe, on utilise certains appareils photo, mais des fois, on se dit « Ah, mais il y a peut-être un modèle qui est plus performant, je vais utiliser celui-ci. » Et puis surtout, c'est l'accès à la protection sociale auquel les auto-entrepreneurs n'ont pas le droit. Ils ont une autre forme qui protège bien moins que le salariat. Et puis la possibilité de devenir sociétaire, donc de participer... à la construction de règles collectives et notamment la répartition des bénéfices, etc.
D'accord. Donc c'est une gouvernance démocratique, c'est-à-dire que Copanam appartient aux gens que Copanam accompagne ?
C'est ça. Il y a 200 sociétaires à Copanam, il y a environ 500 salariés, donc il y a encore de la marge de manœuvre, mais l'objectif c'est bien que la coopérative soit dirigée par les salariés qui travaillent en son sein.
Et est-ce que les coopératives et les salariés que vous accompagnez sont rentables économiquement? Et vous à Copanam, est-ce que vous êtes rentable? Est-ce que c'est un problème aussi? Est-ce que vous posez cette question-là?
Est-ce que l'objectif c'est d'être rentable ou tout simplement de rémunérer le travail qui est réalisé? C'est une bonne question.
Il faut pouvoir le financer, quoi, le travail qui est réalisé.
Tout à fait. Et surtout, il faut savoir le défendre par rapport aux gros clients. Par exemple, Veolia, il n'aime pas trop payer le travail trop cher. Et surtout, il faut que ça soit vite fait. Donc, il y a une pression assez forte sur les salariés. Et donc, c'est aussi à ça que sert cette coopérative, d'être ensemble, d'apprendre des méthodes pour défendre son travail, dire « bah non, mon travail, il vaut tant ». Il y a encore plein d'efforts à faire là-dessus. Ils n'ont pas des salaires de 4000 euros tous, hein, il ne faut pas croire. C'est un vrai enjeu, le développement économique des activités. Concernant le modèle économique de la coopérative, c'est une grosse question parce que ces coopératives se disent ouvertes et à intérêt général puisqu'elles accueillent des chômeurs, donc elles sont financées par des collectivités territoriales, notamment les régions, sauf que les régions sont passées à droite et les coopératives et les SCOP, ça leur plaît pas forcément bien. Donc actuellement, il y a des difficultés à penser le modèle économique, mais c'est d'autant plus intéressant pour repenser comment on fait pour prendre de la distance par rapport aux pouvoirs publics qui ne veulent pas forcément financer ce genre de structure.
Voilà, c'est un peu la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous n'avez pas une espèce d'allergie au fait de rechercher la rentabilité économique parce que c'est quelque part c'est pas votre objectif en fait, c'est l'objectif d'une entreprise traditionnelle, mais vous c'est pas ça que vous aspirez, non?
C'est l'objectif, c'est de répondre à ses membres, et il y a un sociologue qui étudiait les coopératives qui disait la difficulté c'est que c'est à la fois un groupement de personnes, donc l'objectif c'est de répondre à ses membres, mais c'est aussi une entreprise qui est face à toutes les autres, donc qui doit être à minimum rentable. D'accord. Donc c'est une vraie question, c'est ce que j'étudie notamment dans ma thèse, justement essayer de comprendre comment ça fonctionne. Il y a des coopératives qui ont un fort financement public pour accompagner ces entrepreneurs jusqu'à 30-40% du budget. Mais il y en a d'autres qui sont quasiment autofinancées, sauf qu'elles sont un petit peu moins ouvertes parce que du coup, on ne peut pas accompagner, dans ce cas-là, toutes les personnes, notamment les chômeurs qui sont vraiment très loin d'arriver à imaginer un modèle économique fort pour leur activité individuelle. Donc c'est une question, ça dépend ce qu'on veut faire en fait, et ça pose la question de est-ce qu'on veut accompagner tout le monde pour développer son activité économique et être autonome aussi dans son travail.
Vous, Alexandre, est-ce que votre entreprise, ça marche bien pour le moment, au niveau financier ?
En fait, la problématique de modèle économique, je la trouve intéressante, mais on la retrouve dans chaque entreprise, et notamment dans l'économie collaborative. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de startups qui se créent, voire presque chaque année, et pour autant, très très peu, finalement, arrivent à trouver un modèle économique viable et qui font qu'elles passent les 1 an, enfin, comme toutes les entreprises, mais encore plus dans ce genre de secteur innovant. Donc voilà, je pense qu'il y a une vraie difficulté par rapport au business model, au modèle économique. Nous-mêmes, hein, quand on a créé, voilà, on n'est pas forcément modèle économique et on a évolué. C'est-à-dire qu'au départ, on était peer-to-peer, 100% peer-to-peer, avec des transactions entre particuliers, une commission. Et après, on a adapté, on a fait rentrer les loueurs professionnels qui sont aujourd'hui importants sur la plateforme, mais comme sur toutes les marketplaces de vente comme Amazon, eBay, Le Bon Coin, où il y a beaucoup de vendeurs professionnels. Et on leur a fait payer un abonnement et on s'est rendu compte que ça marchait bien et ça a permis de rendre le modèle viable. Mais on est passé par des phases de levée de fonds, de financement. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'était pas, on n'aurait pas pu s'autofinancer dès le démarrage, quoi.
Et ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il y a des gens, vous parlez de loueurs professionnels, donc c'est des gens qui louent beaucoup en fait sur votre site ?
En fait, ce que j'appelle loueur professionnel, c'est en France, il y a des dizaines de milliers de loueurs dont c'est l'activité. Par exemple, un loueur de vélo, d'appareils photo, de déguisement, de canoë, de matériel BTP, enfin de tout ce que vous voulez. Donc, ils ont une activité de location, c'est leur activité à 100% ou une activité secondaire. Et ils viennent chez nous tout simplement pour avoir de la visibilité des clients supplémentaires. D'accord.
David Massé, d'ailleurs, alors pour vous, est-ce que les acteurs de l'économie collaborative, comment ils prennent en compte cette question de la rentabilité économique ? Qu'est-ce que vous avez pu observer un peu dans vos recherches ?
Alors, on a commencé une recherche au début 2015. Donc, on a commencé à rencontrer des entrepreneurs de l'économie collaborative. On a rencontré une quarantaine qui avaient monté en fait des startups issues de cette économie en France. Et donc, comme je vous l'ai dit au tout début, il y a une grande diversité derrière tous ces entrepreneurs. Donc il y a des gens qui concrètement ont monté des plateformes où il n'y avait tout simplement pas de modèle économique. Ça marchait sur le système associatif. Mais même dans ces cas-là, au bout d'un à un moment donné, se pose la question du modèle économique, parce que avoir un serveur, ça coûte de l'argent, etc. Donc en gros, tous les acteurs qui sont beaucoup plus sur des logiques associatives, avec une mission sociétale pour la plupart assez prononcée, c'est-à-dire je veux lutter contre le gaspillage, je veux lutter contre les objets qui sont jetés comme ça à la poubelle, etc. Donc tous ces acteurs-là, à un moment donné, vont se poser la question du modèle économique. Et cette question n'est pas évidente. Et ils vont trouver des moyens. Alors ça peut être des moyens comme la publicité sur une plateforme. Mais alors ils sont un peu tiraillés à ce moment-là parce qu'ils se disent la publicité, j'aime pas du tout. Mais en même temps, ça me permet de financer ma plateforme. Donc c'est un mal pour un bien.
Ils ont des dilemmes un peu éthiques par rapport à leur mission première peut-être qui se posent.
Exactement. Et on voit aussi un certain nombre d'acteurs, même des acteurs assez important au niveau international. Je pense à Couchsurfing, par exemple, qui part sur une base en fait complètement gratuite. Et puis, petit à petit, pour justement avoir encore un plus grand impact, va passer sur un modèle un peu payant. Alors, pas sur toutes ses activités, mais sur une partie. Et on voit finalement, alors c'est notre modèle aussi d'une plateforme un peu concurrente à la vôtre, s'appelle Peerbee.
Du prêt de matériel en particulier.
Exactement. Ouais. Qui est cette fois-ci une plateforme néerlandaise qui justement est passée d'un modèle complètement gratuit à un modèle payant, et c'est en passant sur ce modèle payant, sur un modèle payant, entre guillemets payant, parce que pas tout est payant, mais ça lui a permis en fait de se développer et d'avoir une offre qui commence finalement à vraiment, enfin, avoir une plateforme qui décolle.
Très bien, donc une diversité de réponses apportées à cette problématique du modèle économique dans l'économie collaborative. Tout de suite, on va s'écouter un petit reportage réalisé par Bastien, puisque 2009, la ville de Paris récompense des structures investies dans l'économie sociale et solidaire. Il y avait une remise des prix la semaine dernière, et parmi les vainqueurs cette année, le Carillon. Bastien est allé à leur rencontre.
Depuis plus d'un an, vous avez peut-être remarqué sur les vitrines de vos commerçants un petit logo bleu avec trois cloches accompagnées de pictogrammes. Ce logo, c'est celui de l'association Le Carillon, qui propose de mettre en relation commerçants, citoyens et sans-abri grâce à un système de services simple. Via des pictogrammes facilement repérables, les commerçants adhérents s'engagent à autoriser les personnes dans le besoin à utiliser leurs toilettes, recharger leur téléphone ou tout simplement à appeler les secours. Pour en savoir plus, je me suis rendu au siège de l'association située sur le site des Grands Voisins, au 82 avenue d'Enfer Rochereau.
Qui demande encore un peu de travaux, mais c'est relativement grand, donc c'est pas mal. Donc ça, en fait, c'est dédié à être plus un espace d'accueil. Là, on va mettre des canapés, le café, etc. Donc c'est vraiment pour accueillir des sans-abri qui puissent se poser. On va mettre des ordis aussi en libre service.
Alors bonjour Mélanie, vous vous occupez de toute la partie communication de l'association Le Carillon, mais qu'est-ce que c'est exactement Le Carillon ?
Alors Le Carillon, c'est un réseau de solidarité locale entre commerçants, habitants et sans-abri, qui sont surtout un prétexte pour recréer du lien social. On propose ce qu'on appelle des défis solidaires. Donc, le principe d'un défi solidaire, c'est que dans tel restaurant, pour un menu acheté ou pour 15 euros consommé, au moment de payer, vous montrez votre carte d'adhérent au Carillon. Et en échange, vous recevez un bon pour un plat ou un bon pour une boisson chaude que vous pouvez offrir directement à une personne à la rue. Aujourd'hui, nous, en tant que consommateurs, on ne va pas juste consommer parce qu'on a envie de tel ou tel produit, mais surtout parce qu'il y a une démarche derrière. Et on sait que par le simple fait d'acheter quelque chose, on va pouvoir aider des personnes avec ça. Le but, c'est vraiment l'échange naturel.
Donc bonjour JS et Polo. Vous êtes tous les deux ambassadeurs du Carillon. Qu'est-ce que c'est exactement votre activité au sein de l'association ?
J'ai plusieurs missions. Par exemple, c'est d'aller dans la rue, voir des gens qui sont sans-abri. Comme moi, je suis sans-abri, j'ai une facilité à avoir un contact avec ce monde-là, avec ces gens-là. Ce sont des particuliers, il ne faut pas oublier. Ce sont des gens qui sont dans le besoin, je vais les voir. Je distribue, si j'ai quelques bons du Carillon, je les donne. On est sans-abri, il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains d'abord. Et aussi pouvoir se dire bonjour et partager des choses, et voilà quoi. Et souvent les gens ils sont insociaux, ils restent entre eux, quand on pourrait s'ouvrir et tout le monde peut être présent, tout le monde peut partager quelque chose et donner quelque chose à chacun.
Moi je donne en fait ma joie de vivre, mon vécu, selon tous les critères des choses. Ça peut être un bonjour, un sourire, ça peut être une poignée de main, ça peut être un contact. Donc il faut en faire en sorte de faire honneur au niveau des Carillons et surtout faire honneur à faire du bien pour les gens qui en ont besoin.
J'ai essayé de créer avec le Carillon un modèle citoyen, un modèle
en Louis-Xavier Lécart, fondateur du Carillon.
Et qui permettent d'améliorer un petit peu à la fois la relation qu'on peut avoir avec les sans-abri et puis leur quotidien. Notre logique, c'est plutôt de proposer aux sans-abri de venir dans des lieux de citoyenneté qui sont des commerçants, des lieux de consommation normalement ouverts à tous, mais pour qui malheureusement la porte est un peu fermée vu qu'ils n'ont pas forcément le budget. On est tout à fait dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, à la fois dans notre fonctionnement, Alors on a un projet social, ça c'est important, on amène et on diffuse de la solidarité dans les quartiers, et de plus en plus on a un vrai modèle économique. Notre objectif maintenant c'est de, en plus du réseau, de proposer vraiment de l'insertion via notre biscuiterie en insertion, donc on est tout à fait là-dedans, et là on a gagné d'ailleurs les trophées de l'économie sociale et solidaire de la mairie de Paris, ce qui est un peu gageur aussi de notre valeur et de la proposition qu'on amène aujourd'hui aux citoyens français. Et aujourd'hui les commerçants nous le disent, ils ont des clients qui viennent pour la première fois via le carillon, qui les remercient de leur engagement. Et puis eux-mêmes naturellement s'est rendu compte que l'impact premier qu'on avait c'était sur eux. On leur a permis de mettre un pied dans le social d'une manière légère, simple, comme je disais, ancrée dans leur quotidien, et ils y prennent goût. Le SS c'est un secteur large qui comprend les associations, les mutuelles, les coopératives. Nous on travaille avec la Croix-Rouge, avec Emmaüs, qui sont des structures de l'ESS, hein, et reconnues comme telles. Nous voilà, la différence c'est notre fonctionnement. On travaille en réseau, on travaille avec beaucoup de parties prenantes, et on essaie surtout de permettre que l'action sociale soit dans les mains de tous. S'y intégrant, globalement, c'est un secteur qui privilégie la maximisation de l'impact social à la maximisation du profit pur. Ça implique pas forcément d'être à but non lucratif. On peut être une structure privée avec une rentabilité, évidemment. Donc c'est un secteur assez large qui tend à augmenter. Je crois que c'est à peu près 12% de la population active aujourd'hui. C'est un des secteurs qui tient le mieux les crises. Voilà, c'est un secteur en pleine évolution, qui est très hybride, qui permet beaucoup de choses, beaucoup d'expérimentations. Donc c'est un secteur qui a de l'avenir et qu'il faut encourager.
J'ai un cœur comme le vôtre qui bat à sa cadence et qui est le mien.
Place publique, un vendredi par mois sur Radio Campus Paris.
Vous n'avez pas le monopole du cœur.
20h42 sur Radio Campus Paris, vous êtes toujours à l'écoute de Place Publique, notre émission politique spéciale présidentielle sur l'économie collaborative et l'économie sociale et solidaire. Et on accueille Valentin en plateau. Bonsoir Valentin.
Bonsoir.
Valentin qui va donc être chargé de poser des questions hautement philosophiques à nos invités, si j'ai bien compris.
Oui, c'est à peu près ça. Pas hautement philosophique, mais bon. Donc moi j'avais une question, bonsoir à tous. Alors... avec ces nouvelles formes économiques que sont l'économie collaborative et l'économie sociale et solidaire, les citoyens deviennent des acteurs directs de l'économie. Est-ce que cela permettrait pour les citoyens à ce que l'économie soit moins complexe, moins compliquée à comprendre ?
On peut parler de...
Justine Ballon.
De l'éducation à la coopération. Alors je vais parler pour ma paroisse, mais c'est pas des nouvelles formes. En tout cas, l'économie sociale et solidaire, elle existe depuis très longtemps.
Ouh, il n'a pas écouté le début de l'émission.
Si, oh, mais...
Non, mais c'est important l'histoire. Je pense que c'est un vrai moyen, et dans tous les cas, effectivement, d'être plus en action et en maîtrise des échanges économiques qui peuvent être faits. Et aussi, quand c'est un modèle démocratique, de pouvoir être en capacité de décision sur quel modèle économique on va choisir, comment on va répartir les bénéfices, c'est quoi notre stratégie dans le futur, et aussi où est-ce qu'on va investir. Dans l'économie sociale, il y a une tradition d'éducation, c'est sept principes, notamment de l'Alliance coopérative internationale, qui dit qu'il faut éduquer. Et si on veut que les gens y participent à la démocratie, il faut qu'on leur explique comment ça fonctionne. Donc il y a un temps assez important qui permet de comprendre comment ça fonctionne. Et je voudrais citer peut-être un exemple de ce qu'on fait à Copanem. On a un projet jeunesse, on l'appelle éducation à la citoyenneté économique. L'objectif, c'est d'aller partout où on peut, dans les universités, dans les quartiers, où on va parler de l'économie et expliquer de manière plus simple peut-être comment ça fonctionne. Et surtout, c'est quoi les enjeux, notamment... alors nous, on aime bien en parler du travail, hein, mais ça peut être d'autres choses. Donc on parle du travail, c'est quoi travailler dans une entreprise, c'est quoi les rapports qui peuvent s'exercer. Donc on prend ce temps important pour justement toute cette partie éducation.
D'accord. Est-ce que, oui, je m'adresse aux deux autres invités, est-ce que donc ces nouvelles formes d'économie ne sont pas un peu plus lisibles que l'économie telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec quand même des algorithmes qui font des échanges à la nanoseconde sur des cours de matières premières dans un but qui paraît très éloigné de l'économie des biens et des services telle qu'on la connaît au quotidien?
Bon, alors je me lance... Est-ce que c'est Est-ce que c'est plus lisible? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être plus lisible parce que on le pratique. C'est-à-dire que potentiellement, là, aujourd'hui, il y a, si on en juge par un dernier rapport, il y a à peu près 86% des gens, quand on leur demande est-ce que vous avez déjà utilisé une plateforme de l'économie collaborative, etc., qui répondent oui. Donc ça veut dire qu'il y a au moins une. On voit en fait l'utilisation de ces. On, peut-être qu'on comprend un petit peu parce qu'on les utilise. Néanmoins, ce type d'économie, enfin, et là je rejoins Justine, c'est que si on n'éduque pas les gens à l'utilisation, etc., c'est extrêmement compliqué à comprendre, et notamment, enfin, par exemple, sur l'économie collaborative, comprendre réellement l'économie collaborative. Moi, je tente un petit peu de l'expliquer aux étudiants, etc. C'est pas forcément évident, et notamment parce que tout à l'heure, Alexandre parlait, c'est parfois de l'économie de la fonctionnalité. Donc on se dit, on va passer de la propriété à l'usage. Donc c'est ça l'économie collaborative. Oui, mais c'est pas que ça en fait. On se dit, finalement, la perceuse, le héros de l'économie collaborative, c'est quand même la perceuse. Donc,
cet objet qu'on sort une fois tous les 10 ans, et quand on le cherche, on ne le trouve pas, donc il faut aller voir le voisin.
Donc on se dit, la propriété pour la perceuse, ça n'a aucun intérêt. Autant en avoir juste l'usage quand on l'utilise. Mais en fait, c'est pas forcément ça. Donc en fait, il y a aussi plein d'initiatives qui sont autour des communs. Donc on va plutôt aller chercher des choses sur la gouvernance décentralisée, partagée, favorisant la créativité collective, etc. Un petit peu comme l'expliquait Justine. Puis parfois, c'est de l'économie carrément du don. Donc il y a une importance du lien social qui est mis vraiment au cœur de cette économie. Et parfois, là c'est un courant qui dépeint extrêmement bien l'économie collaborative, c'est le courant libertarien de la contre-culture américaine. Et alors, je sais pas si
ça c'est des gens qui veulent qu'il n'y ait pas d'État.
Alors en fait, c'est
l'économie.
Exactement, c'est tous ceux qui luttent contre les rentes et la régulation des grandes entreprises bureaucratiques. Et là, on voit très bien des acteurs comme Uber qui finalement expliquent qu'ils veulent juste casser les grandes rentes des grandes entreprises. Et c'est assez paradoxal en fait, parce que parfois on se dit ils sont contre les rentes, mais ils en recréent une. J'avais à conseiller d'ailleurs un ouvrage qui est assez extraordinaire sur cette question-là.
Allez-y.
C'est l'ouvrage de Fred Turner. C'est un historien américain qui a étudié la vie d'un monsieur qui s'appelle Stewart Brown, qui commence sa vie un peu médiatique en étant un hippie dans la Silicon Valley. Puis, petit à petit, il va fonder un catalogue qui est plus ou moins le catalogue du catalogue un petit peu la redoute du hippie. Et puis après, il va être consultant pour marabouter les dirigeants de la Silicon Valley et tour à tour, après, gourou de néolibéral. Ce qui fait qu'en étudiant ce monsieur-là, il voit très bien en fait comment tout ce mouvement-là s'allie très bien avec le côté hippie, un peu gourou, je veux casser les rentes, etc. Mais ce mouvement s'est construit contre les IBM, contre la guerre au Vietnam, etc. Et le mouvement Uber, le mouvement Airbnb prend racine aussi dans ce type de mouvement. Donc si on veut comprendre l'économie collaborative, en fait, on est à l'intersection de ces quatre mouvements. Et c'est pas si simple à comprendre que
ça. Il y a des doctrines politiques derrière, il y a des enjeux et des luttes de pouvoir et des gens qui peuvent changer de discours selon leurs intérêts, si je résume.
Exactement.
Et les doctrines qui se concentrent, est-ce qu'elles peuvent être parfois en totale contradiction ?
Elles sont en contradiction, mais il y a une gestion en fait de ces contradictions au sein même parfois des initiatives.
Et j'ai envie de questionner juste, pour moi le cœur de la question dans l'économie, c'est la propriété. Et à Uber, par exemple, dans le modèle, à qui appartient l'entreprise et comment sont réparties les richesses? Et en fait, les chauffeurs Uber, ils sont pas dedans. Hein. Ils sont vraiment
c'est
à
les
la
gens
merci.
Qui gèrent les serveurs, j'aurais envie de dire, non. Enfin, ceux qui gèrent la plateforme, l'outil
non,
en lui-même.
Oh, ils sont aussi salariés.
Des gens comme Alexandre Vogue, mais en beaucoup plus riche. Je ne sais pas.
Non, je sais pas. Je pense que les chauffeurs Uber s'enrichissent pas autant que les patrons de Uber.
Ah non,
mais mais par contre, je pense qu'ils vivent grâce à Uber quand même. Donc je pense qu'ils s'y retrouvent. Sinon, il fera autre chose, quoi.
D'ailleurs, il y a aussi des luttes de pouvoir à ce niveau-là, parce qu'on a vu qu'il y a eu des procès aux États-Unis sur certains États qui veulent forcer Uber à salarier les chauffeurs, parce
oui,
qu'ils
oui,
disent que juridiquement...
Oui, ça, c'est un autre, ouais, ça, c'est une autre problématique. C'est comme si en France, voilà, une boîte emploie des gens sans les salariés, donc sans payer les charges et sans offrir les avantages du salariat à ses pseudo-employés, donc forcément, ça pose problème, ouais.
Valentin.
Alors moi j'avais plus une question pour vous essentiellement, monsieur Alexandre. Est-ce que les jeunes peuvent, les jeunes générations peuvent attendre de l'économie du collaboratif et de l'ESS, l'économie sociale
D'accord.
et solidaire.
Je pense que donc les jeunes sont nés avec Internet, donc forcément ça leur parle. Et moi quand j'ai créé Ilou, avec mon associé, on a eu un énorme travail d'évangélisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit ouais, effectivement, on peut tout louer. On peut louer une voiture, une Autolib dans Paris pour aller se balader. On peut louer un Vélib. Enfin, dans toutes les villes, il y a des vélos en libre service. Donc on peut louer, on peut utiliser plutôt que posséder. Mais à l'époque, c'était pas évident. C'était plus évident de laisser sa perceuse au placard dormir 364 jours par an plutôt que de penser à la louer. Donc je pense que les jeunes, voilà, ils comprennent ça maintenant. Ils sont bien contents de trouver des moyens, des compléments de revenus. C'est un peu la débrouille, etc. Alors aujourd'hui, voilà, c'est un peu dans le cœur du débat, la fiscalité, l'imposition. Voilà, je ne sais pas si c'est le sujet, mais en tout cas, voilà, ça pose d'autres problématiques. Mais en tout cas, je pense que les jeunes, voilà, sont très averses à cette économie, mais pas seulement que les jeunes.
D'accord. Est-ce que ce n'est pas aussi une économie justement de réponse à la précarité, au délitement des systèmes sociaux qu'on observe quand même un peu partout ?
En fait, je pense que c'est... en tout cas, je parle sur la plateforme Ilou. Clairement, voilà, des gens vont pouvoir, en louant leur vélo, leur perceuse, leur appareil à raclette, gagner de l'argent. Et ça va leur arrondir leur fin de mois, ça va les aider et ça va rendre service à d'autres. Pour autant, je ne pense pas que ça vienne freiner le marché de la location. Bien au contraire, ça évangélise beaucoup de gens à louer. Et nous, c'est pour ça que sur notre plateforme, on a des particuliers et des professionnels. Voilà, ce n'est pas l'un qui concurre avec l'autre. C'est pas, quand je loue le vélo de mon voisin, ce n'est pas la même qualité, le même vélo, le même service, le même état que si je vais louer chez un magasin de location de vélo. Donc les deux sont complémentaires et l'un aide l'autre.
Vous parlez d'évangélisation, c'est-à-dire qu'il faut qu'on change notre religion sur la notion de propriété ?
Bah, je pense qu'aujourd'hui, c'est déjà le cas. C'est qu'on le voit dans les grandes villes. Alors, ce n'est pas forcément pareil en Provence, mais dans les grandes villes, les jeunes, voilà, ils rêvent pas de s'acheter une voiture quand ils ont leur premier salaire, ce qui pouvait être le cas pour nos parents. Aujourd'hui, voilà, on sait que ça coûte cher, il faut la garer, il faut prendre l'assurance, il faut faire les réparations. Donc, les gens, ils rêvent plus forcément de ça. Donc, les gens, voilà, sont beaucoup moins attachés à la possession. Donc, je pense que ça, c'est déjà entré dans les mœurs.
Valentin, il y a peut-être encore quelques questions dans le peu de temps qui nous reste.
Vous en pensez quoi ?
Alors,
David Massé.
Pour ma part, moi, je me suis beaucoup intéressé en fait aux promesses de l'économie collaborative. Donc, pas forcément pour les jeunes, mais de manière plus sociétale. Principalement, ça se découpe. Les gros défenseurs de l'économie collaborative sont en disant oh, c'est merveilleux pour l'écologie parce que on va faire moins de voitures, on va moins polluer. Et puis, ça renouvelle le lien social à l'heure où les Américains, en fait, ne parlent même plus à leurs voisins, etc. Donc ça, c'est Rachel Botsman qui explique ça dans un livre sur l'économie collaborative. Donc, il y a tout un tas de promesses. Quand on les regarde de plus près, on se dit oui, certaines plateformes collaboratives jouent le jeu ou tout du moins remplissent ces promesses. Mais il faut quand même bien différencier les promesses des impacts. Et des éléments en fait qui ressortent de nos recherches, ça a été qu'il y a quand même des éléments un peu contre-intuitifs. Alors, un, c'est par exemple sur les plateformes ce qu'on appelle l'effet iPhone. L'effet iPhone, c'est comme vous pouvez revendre votre iPhone 5 ou votre iPhone 6, et ben finalement, c'est bien parce que ça va vous permettre d'acheter votre iPhone 7. Donc, ce qui, à la base, était une promesse de réduire la surconsommation, finalement, devient un outil...
Ça peut aussi faciliter la surconsommation.
Exactement.
Ça dépend comment on l'utilise.
Exactement. Vous avez aussi des gens qui consomment sur le bon coin, qui sont prêts à faire 30 km pour aller chercher leur objet qu'ils ont acheté 10 euros. Donc en fait, vous avez tout un tas de bénéfices et, sur l'environnement qui sont complètement négatifs dans ce genre de...
Je pense pas que l'argument écologique ou social, ça soit l'argument numéro un. Enfin, en tout cas, ça fait une heure qu'on parle, j'ai parlé que d'arguments financiers, finalement. Je pense que les gens sont avant tout là pour le côté argent. Et je pense que l'écologie et le social, c'est des plus, en fait. C'est-à-dire que les gens, voilà, ont bonne conscience parce qu'ils gagnent de l'argent tout en rendant. Mais c'est pas, pour moi, rares sont, mis à part peut-être les early adopteurs, rares sont ceux qui viennent sur une plateforme, en tout cas comme Ilou, pour uniquement le côté écologique ou social, quoi.
L'économie collaborative, donc, porte beaucoup de promesses, comme nos politiciens, mais elle ne tient pas tout le temps.
Mais par exemple, si on prend... alors évidemment, dans les promoteurs de l'économie collaborative, beaucoup portent des promesses. Mais par exemple, si on prend l'exemple d'une location de voiture, on pourrait éventuellement se dire, étant donné que je loue ma voiture, j'ai plus besoin d'en acheter, donc éventuellement, voilà, c'est mieux pour l'environnement. Sauf que aussi, il y a un effet qui est induit dans tout ça, c'est que si moi je loue ma voiture que je remplaçais tous les 10 ans, je la loue tous les week-ends et je vais la remplacer beaucoup plus rapidement. Donc il y a plein d'effets et je pense qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics se posent vraiment cette question. Il y a à la fois comment je réglemente ces plateformes, mais il y a à la fois est-ce que d'un point de vue environnemental, hein, d'un point de vue sociétal, je peux intervenir et subventionner cette économie. Et ces questions sociétales au sens très large sont compliquées en fait à évaluer.
C'est-à-dire qu'on a du mal à quantifier ça et à le mesurer dans les statistiques économiques telles qu'on les connaît aujourd'hui, en fait, de l'INSEE.
On va y arriver, mais là, pour l'instant, les plateformes sont très jeunes pour pouvoir, en fait, avoir un discours assez clair là-dessus.
Justine Ballon ?
Moi, je vais lancer un pavé dans la mare.
Allez, un pavé dans la mare pour conclure cette émission, puisque nous arrivons presque à la fin de notre débat.
Exactement, et du coup, quid en fait, l'économie sociale et solidaire, la coopérative, elles n'ont pas du tout saisi cette question de l'économie collaborative et je pense que c'est vraiment dommage. Quid de l'articulation entre les deux et à mon avis, il y a vraiment beaucoup à faire. Quid d'une plateforme Uber coopérative où les chauffeurs Uber seraient en maîtrise de leur outil de production ou un des Deliveroo coopératifs où les gens seraient assurés quand ils tombent en vélo et qu'il pleut ? Voilà, c'est mon pavé.
Et oui, donc des rencontres, des synergies à créer, hein, qu'on a commencé à créer un peu à Radio Campus Paris ce soir dans Place Publique. Je vous remercie tous les trois pour avoir accepté l'invitation à ce débat qui était fort instructif. Enfin, moi, en tout cas, j'ai appris plein de trucs. Je pense que c'était pareil pour vous derrière votre poste de radio. Allô, allô, la souterraine, vous m'entendez? Non. Peut-être ne veulent-ils pas faire de passerelle avec moi. Bon, très bien. Alors, restez à l'écoute de Radio Campus Paris. Hein. Tout de suite, c'est la souterraine. Donc, ça veut dire qu'on a encore le temps pour un ultime mot de conclusion. Qui veut relancer un pavé dans la mare, peut-être ? Ah, non, la souterraine arrive. Allô, allô, Laurent ?
Salut, moi, je t'entends pas.
D'accord. Bah, tu ne m'entends toujours pas ?
Si, non, mais je t'entends à travers la vitre, ça va aller.
Alors, qu'est-ce que vous avez au programme ce soir dans la souterraine ?
Plein de musique et puis une session, comme tous les 15 jours, ou presque. Et ce soir, c'est Gabriel Auguste qui sera là. Voilà, vous allez découvrir ça, si vous écoutez.
C'est du lourd. Restez donc à l'écoute du 93.9. C'était le deuxième numéro de Place Publique. Merci Valentin, merci Nino, merci à nos invités, merci Paul-Henri, merci Elsa. On se retrouve le mois prochain pour une troisième émission thématique avec encore une fois des invités très originaux et toujours pas de politiciens.